France Inter. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus, ni bienvenus. Mais si nous nous taisons, nous avons toujours peur. Il faut donc mieux parler, sachant que nous n'étions pas censés survivre. Audre Lorde, la licorne noire.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Christophe Martet.
Bonsoir Julia.
Je suis ravie de vous recevoir, ça fait longtemps qu'on en parle et cette fois on arrive à le faire, donc c'est merveilleux. Cole Porter, Ella Fitzgerald, All Through the Night, elle vous parle et elle vous accompagne souvent cette chanson-là, pourquoi ?
Oui, parce que c'est une chanson qu'on écoute beaucoup avec mon mari, le matin, c'est vraiment une chanson parfaite pour le matin, déjà parce que la voix d'Ella Fitzgerald, tout simplement, et puis parce que Cole Porter... Génie de la musique américaine, gay. Il ne l'a jamais vraiment dit, mais en tout cas, ça s'entend dans toutes les paroles de ses chansons, avec le double entendre, avec voilà tous les sous-entendus, et c'est ça qui me plaît.
Je pense qu'on l'entendra différemment cette chanson maintenant. Parler malgré la peur, parler parce qu'on est vivant, parce qu'on est des survivants et pour qu'on nous entende enfin. Ces mots d'Audre Lorde que je viens de lire, vous les avez pensés très fort à certains moments de votre vie.
Oui, parce que je sais que c'est pas évident forcément pour des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans, par exemple, de faire leur coming out, ou pour des personnes vivant avec le VIH de le dire. Mais il y a un moment où quand on a les capacités, je suis pas en train de dire que tout le monde peut le faire et doit le faire, mais quand on a les capacités, les possibilités, c'est important de parler et c'est important de dire les choses.
Important pour qui ? Pour celui qui parle ou pour ceux qui vont entendre ?
Les deux. Non, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que ça permet, je crois, de faire avancer les choses. La visibilité permet de faire avancer les choses. Et en plus, on n'est aussi jamais mieux servi que par soi-même. Et en termes d'accès à la santé, d'accès aux droits, c'est les personnes elles-mêmes concernées qui peuvent dire de quoi elles ont besoin.
Journaliste, vous écrivez sur les droits des minorités en général, des personnes LGBT en particulier, depuis que vous le pouvez en fait. Actuel président de l'association Vert Paris et Seine-Saint-Denis sans sida, bénévole à l'ARDIS, association pour la reconnaissance des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour. Ah, vous m'avez aussi écrit « folle des pieds ». Pour vous présenter.
Oui, c'est une expression, folle des pieds, ça peut être dire folle des pieds à la tête, c'est peut-être ça que ça veut dire. Je ne suis pas fétiche des pieds.
Alors ça...
Mais enfin, chacun son...
Évidemment, évidemment. Bref, infatigable combattant pour le respect et pour la liberté de toutes et de tous. Vous êtes aussi une des grandes figures de la lutte contre le sida et contre la sérophobie. Dit comme ça, Christophe, ça vous pose là. C'est un petit côté solennel, encore qu'avec le fol des pieds un peu moins. Prenez ce miroir pour compléter cette présentation, s'il vous plaît. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Et oh non ! Ça commence par un... Bon...
Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer des images. Hein, c'est Jean Cocteau qui disait ça. Et là, franchement, non, je ne me regarde pas beaucoup dans le miroir en général, dans la glace.
Ça n'a jamais été le cas ?
Non,
ou...
jamais. Non. Voilà, je vais le reposer.
Ok, d'accord. Je n'insiste pas. Je dirais simplement que vous êtes né très exactement le 4 avril 1959 à Lyon. Maternité de l'Hôtel Dieu, c'était un samedi. Il faisait beau. Très beau. Ce jour-là, le printemps prenait des airs d'été. Et la suite, vous allez nous la raconter.
France Inter. En marge.
Mmh. Vous pouvez chanter, hein.
Oh non, non. Alors, faut pas. Il fait beau.
Bonne nuit les petits, série d'animation culte des années 60 sur le RTF. Quelles images vous viennent en tête quand vous entendez ce générique, Christophe ?
En fait, l'image qui me vient en tête, c'est quand le poste s'éteint. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu fasciné par tout ce qui était technique et je m'approchais quand l'image du premier poste qu'on avait en noir et blanc, on éteignait le poste. À ce moment-là, l'image diminuait, ça devenait un point lumineux et je me disais, mais où va cette image? Où elle part? Et j'étais collé comme ça pendant trois minutes devant le poste.
Alors, avec vous, il y a deux grandes sœurs. Ça construit comment, ça, d'être le premier garçon, d'avoir deux sœurs aînées?
Oh, c'est bien, j'aime beaucoup mes deux sœurs, ça se passait plutôt pas mal. Christine avait tendance un peu trop souvent à me piquer mon dessert,
ouais,
ma sœur aînée.
Hein, voilà. Donc là c'est dit, on le dit maintenant.
Voilà, donc moi je lui dis voilà maintenant que franchement, bon, c'était pas sympa. Mais sinon, non, ça c'est très bien.
Vos parents se séparent quand vous avez 9 ans et c'est d'abord une séparation de corps. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, en fait, ils se séparent même un peu plus tôt, et une séparation de corps à l'époque, c'était pas le divorce, c'était la marche avant le divorce. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est l'idée que on peut ne plus faire, j'imagine,
parce que comme
lit
le
commun, vie commune, parce que sinon, effectivement, c'est plus compliqué, quoi.
Vos parents divorcent en 72. Comment on est perçu à l'époque quand on est enfant de divorcé?
Pas très bien, c'était mal vu. Et en même temps, pour nous, ça s'est bien passé parce que nos parents nous ont mis... On posait les cartes sur table et on dit, voilà, on se sépare. Je sais plus comment ils ont dit ça, mais non, ça a été plus... Vous avez raison, la réaction des autres. Ah, ouais. T'es enfant de divorcé. Ouais. Voilà.
Mais vous l'avez vécu comment ce divorce?
Comme je dis, pas trop mal, mais c'est vrai que, comme je dis souvent aussi, l'enfance, pour moi, c'est pas forcément une période géniale. Mm-hmm. Je me retourne rarement sur le passé.
Votre père, Jean, directeur d'une agence de voyage, vous ne le verrez plus que par intermittence, un week-end sur deux, c'est l'usage à l'époque. Et encore, votre mère,
Marcel... Oui, c'était moins que ça, oui.
Votre mère, Marcel, va donc vous élever seule, tous les trois. Pour gagner sa vie, elle va reprendre son métier de couturière. Première d'atelier, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ouais. Ouais. Elle devait avoir une sacrée force de caractère, hein, votre mère.
Oui, alors en fait, c'était quelqu'un de très doux, mais en même temps, voilà, très, très déterminé, qui supportait pas aussi l'injustice. Mmh. Bon, qui avait mal vécu, elle, son divorce, ça c'est sûr, et souvent, elle était quand même un peu remplie de ressentiment vis-à-vis de notre père, qui nous avait aussi largués, il faut le dire, les choses comme elles sont. À l'époque, hein, c'était pas comme aujourd'hui, où il y avait quand même des choses beaucoup plus encadrées, sur la garde des enfants, sur l'aspect pécunier des choses, donc non, c'est vrai que ça n'a pas été très facile pour elle, pour cette période-là.
4 kg 420 grammes à la naissance, le plus gros bébé de la maternité, ça c'est vous. Mais à part ça, quel enfant étiez-vous?
Distrait, peu distrait, un peu dans les nuages, voilà.
Dans votre bulle?
Ouais, un peu dans ma bulle quand même, un peu dans ma bulle. Et puis à l'école, bon, c'était un peu compliqué.
Parce que
dès le début, mais sans que je m'en rende compte, les autres garçons me disaient, toi t'es une fille.
Bon. Ah oui.
Alors je dis, c'est cool, moi, je suis une fille, bon, j'allais avec les filles. Je pense aujourd'hui que ça a dû quand même un peu me travailler, traverser et me faire du mal, ou en tout cas me...
C'est-à-dire que vous étiez exclu du groupe, quoi.
Ouais, voilà, quelque part, mais bon, moi j'étais bien avec les filles.
Les sports collectifs, c'est pas trop votre truc, lecture non plus, fantômette à la rigueur, mais sinon, très vite, ce qui vous porte, ce qui vous enchante, ce qui vous fait rêver, c'est le cinéma, pour Jeanne Moreau, pour Micheline Prel, et puis pour les Péplums, alors ça, ouais, vous adorez.
Years of conception, of planning, and actual production, Covadis has been completed, and a dream has been fulfilled.
Quo Vadis, un classique du genre. Quel effet vous fait ce film?
Alors c'est étonnant à l'époque parce que ça m'a pas mal traumatisé, enfin ça m'a fait un vrai choc, et je pense que le choc vient aussi du fait que ce qu'on voit dans les péplums, depuis j'en ai vu beaucoup et j'ai un peu étudié la question, on se lâchait un peu parce que sur la question homo-érotique surtout, parce que justement on voulait souvent décrire Rome comme étant une société corrompue, décadente, parce que souvent ces films-là, et Quo Vadis en est un des exemples, c'est des films où aussi il va y avoir la dimension religieuse. Voilà. Et typiquement, on pouvait se permettre de montrer des scènes qu'on n'aurait pas montrées dans d'autres films. Il y a Spartacus, hein, où il y a cette scène très connue. Est-ce que vous préférez les huîtres ou est-ce que vous préférez les moules? Enfin, je ne sais plus exactement. C'était le truc. Snails or oysters, je crois que c'est ça. Ouais. Et c'était une scène où typiquement, il y avait une drague entre hommes.
Ouais.
Pareil dans Bénure, hein, il y a une scène dans Bénure qui est très connue, qui est toujours montrée dans les rétrospectives de films où l'homosexualité était un peu au placard. Une scène de retrouvailles entre Bénure et son ami d'enfance, et on voit une scène très très chargée en homoérotisme, en émotion.
Mais ça vous plaît ou ça vous effraie quand vous voyez ça
enfant? Ça me fait un peu peur à l'époque, parce que peut-être qu'à l'époque, déjà, j'ai un peu... Quand je dis l'époque, ça devait être... Alors, c'était pas la sortie du film, j'étais pas né, mais...
51,
mais
non.
Ouais, donc, mais c'était un peu après, et parce que je pense que je perçois à ce moment-là que ça me trouble, qu'il y a quelque chose qui se passe. À la vision de ces hommes musclés, de ces hommes en jupette aussi, peut-être.
Huilés, imberbés.
Voilà.
Petit, vous vous racontiez quoi de la suite? Vous disiez que vous feriez quoi quand vous seriez grand?
Pouf, alors j'aimais bien avoir un peu la tête dans les étoiles, donc au départ je voulais effectivement partir dans le... C'était la période de la conquête de la Lune, de l'espace et tout ça, donc ça me plaisait bien. Après j'aurais voulu aussi être danseur étoile, ça mon père n'a pas très bien pris, donc j'ai abandonné assez vite, et bien après j'avais pas trop d'envie en fait.
Alors en attendant, le tout premier poster que vous accrochez dans votre chambre, c'est une affiche contre la Coupe du Monde d'Argentine, parce que la dictature, déjà c'est non, et que le combat en revanche c'est oui. Vous avez commencé 5 ans plus tôt, vous étiez dans les rues de Lyon mobilisé contre les lois Debré et la suppression des sursis militaires, pas très loin de Michel Field qu'on va entendre dans cette archive.
Mais notre mouvement dépasse largement la frange politisée des lycées. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de lycéens qui n'ont pas fait de politique jusqu'à maintenant et qui viennent sur la question des sursis, et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, la prise de conscience des lycéens s'est opérée et aujourd'hui, une mobilisation sans précédent dans l'histoire du mouvement lycéen depuis l'affaire Guyot a lieu sur le problème du rétablissement des sursis militaires et de leur extension à tous les jeunes.
C'est une initiative de la Commission Armée Jeunesse. La Commission Armée Jeunesse qui comprend une majorité de représentants des jeunes, étudiants, ouvriers, agriculteurs et une quinzaine de militaires.
On est au printemps 73, vous avez 14 ans, 14 ans et donc déjà militant.
Alors militant, je sais pas, mais en tout cas on était dans un lycée qui était censé être un lycée pilote, mais où il y avait quand même la contestation générale de, j'ai envie de dire, de la société, parce que c'est quand même les années 70, où il y a beaucoup de mouvements militants, de mouvements activistes, etc. C'est aussi installé dans ce lycée-là. Donc voilà, ça vient de là, je pense. Et puis comme ma mère, je pense, moi, ce qui me plaisait aussi, c'était l'action, c'était le fait de pouvoir louper les cours aussi, de pas aller en classe, et de rester au petit parc. Il y avait un petit parc à côté.
C'est votre mère qui plante la graine de la révolte, c'est de chez elle que ça vient plutôt?
Je pense, enfin en tout cas, même si c'était pas quelqu'un de politisé, c'était quelqu'un qui m'a montré, notamment je sais qu'un peu plus tard j'allais acheter le magazine du mouvement des femmes, Femmes en mouvement, et que moi en lisant ça me parlait. Même si je n'avais pas encore complètement conscience, donc je vais avoir 16 ans, 17 ans, je n'avais pas encore mis les mots gays sur ce que je vivais, mais lire des portraits de femmes, lire des combats de femmes qui parlaient d'émancipation, de leur corps, de reprendre, de lutter pour leurs droits, ça me parlait tout de suite en fait.
Le reste va quand même vous rattraper, le reste c'est le désir, c'est le corps qui s'éveille, c'est les premiers baisers, c'est l'adolescence, enfin vous voyez quoi. Mais ça y est, il a chanté. Je crois qu'on est en en Allemagne, hein,
oui,
là, avec vous.
Échange d'un échange, hein, entre la France et l'Allemagne.
Ah, je croyais que vous me disiez, vous alliez me parler d'échange de fluide ou je sais
pas. Ah non, non, oh là, on n'en est pas là, Julia, pas tout de suite.
Pardon. Alors, il se passe quoi dans cet échange-là?
En fait, c'est parce que c'est la chanson qui tournait en boucle cette année-là, et on est en Allemagne parce que c'est, comme je disais, un échange de lycée. Enfin, j'étais dans une classe bilingue, censée faire un baccalauréat qui m'aurait, que j'aurais pu faire en français et en allemand. Bon, ça s'est pas passé comme ça, puisqu'on était assez dissipés, mais en tout cas, voilà, donc on allait chez un correspondant,
okay,
en Allemagne, à Francfort sur le Main, et c'est là où j'ai vu, je crois, été plus ou moins la première fois en discothèque où on dansait sur cette chanson.
Et où il y a eu les premiers flirts,
voilà,
avec
une fille.
Avec une fille.
Ouais, bah oui, parce qu'il fallait faire, je pense, comme tout le monde, parce que elle était cool, et puis bon. Je pense qu'on était un peu plus fluide aussi à cette époque-là.
Ouais. Qu'aujourd'hui, vous voulez
qu'aujourd'hui
dire?
Qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que j'étais plutôt parti dans cette direction parce que c'était pour faire comme les autres, en fait.
À quel moment, dans quelles circonstances, les choses deviennent plus claires pour vous et vous formulez d'une façon ou d'une autre, en fait, je suis homosexuel, ce fameux coming in?
Oh, c'est pas évident à cette époque-là parce que on peut se dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de représentations, des films, des pièces, des journaux, des séries, etc. À l'époque, ça ne me parlait pas. La seule représentation que j'avais, c'était où j'avais compris que c'était des gens comme Jacques Chazot. Donc c'était horrible en fait. Je pouvais pas m'identifier à ça.
Pourquoi?
Parce que c'était un vieux monsieur folle qu'on moquait sur les plateaux de télé. Je me disais mais c'est pas ma vie, moi je suis pas comme ça.
C'est-à-dire que c'était encore une image très caricaturale
très négative,
qu'on avait.
Ouais. Très caricaturale. Et puis, comme je dis souvent, je pense que le coming in, il est solitaire. Il y a un moment où, effectivement, on réalise que les désirs nous portent vers le sexe, vers le même sexe, mais que c'est pas évident à formuler, en fait. Il y a ce film, Les Roseaux Sauvages, où le Gaël Morel est devant la glace, justement, un miroir, et dit je suis pédé, parce que voilà, comme s'il faut se persuader soi-même déjà, et que c'est pas évident, en fait. Parce qu'on veut faire comme tout le monde, en fait.
Parce que c'est plus simple.
C'est plus simple, on veut ressembler
aux
autres.
Enfin, on croit que c'est plus simple.
On croit que c'est plus simple.
Ouais.
Mais quand ça vient, ça vient.
Alors, la première fois avec un homme finit par arriver, vous avez la petite vingtaine, vous n'adorez pas. Il vous a fallu un peu de temps avant de trouver du plaisir, de la joie, même et sans doute de l'amour avec les garçons. Le temps d'accepter, le temps de s'autoriser, sans doute. Et vous partez, il faut quitter Lyon.
Oui, il faut partir de Lyon, et
pourquoi?
C'est là où, parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais pouvoir justement m'émanciper, que j'allais pouvoir quitter le milieu familial et puis une ville où il se passe pas grand chose. Et j'ai un ami qui dit, tiens, je vais faire l'école de journalisme, et c'est comme ça que je me suis inscrit, en fait.
Officiellement, le journalisme, c'est par hasard, mais rien n'est jamais totalement du hasard. Peut-être que vous aviez des choses à dire, Christophe Martel, des choses à raconter, des choses à faire bouger.
Love you if you want.
Ain't No Way, Aretha Franklin, parce que...
Cette chanson a été écrite par sa sœur, Caroline Franklin.
Ouais.
Et en fait, sa sœur était lesbienne.
Mais non.
Et quand on écoute cette chanson, qui n'est pas genrée, c'est You, c'est pas... Eh ben, en fait, on se rend compte que ça, c'est peut-être très bien une chanson qui a été écrite pour une femme, en fait. Et je trouve ça génial justement qu'à chaque, enfin à chaque étape et encore aujourd'hui, je découvre ces choses-là sur notre histoire, l'histoire commune des personnes LGBT.
Président de l'association Vert Paris, la Seine-Saint-Denis sans SIDA, journaliste, combattant de la liberté et de l'égalité pour toutes et tous, vous battez le pavé depuis le milieu des années 70. On va vous retrouver là, au beau milieu de la toute première marche pour les droits des personnes homosexuelles. On est le 4 avril 1981, on est sur Antenne 2. Et vous, là? Toutes et tous, vous êtes sur France Inter. Bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Et puis une autre marche, cet après-midi également à Paris, organisée cette fois-ci par des homosexuels. Les participants reprochent à l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, de ranger l'homosexualité dans la catégorie des troubles mentaux. Ils estiment également que la loi française est beaucoup trop répressive à leur égard, puisqu'elle interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans, ce qui n'est pas le cas pour les hétérosexuels.
Patricia Charnelet au micro, et vous donc, dans la rue, Christophe Martec, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée-là? C'était votre anniversaire en plus.
C'était mon anniversaire, absolument. Vous savez tout. Et en fait, le souvenir, c'est d'avoir cette sensation immense de liberté, de joie, d'empowerment, parce que... 10 000 personnes gays et lesbiennes dans la rue, ça veut dire que le monde entier est gay et lesbien en fait. Parce que vous êtes entouré que de garçons et de filles comme vous. Et ça, c'est un sentiment de puissance, comme je dis, de joie. Surtout qu'en plus, cette marche qui s'est terminée à Beaubourg, après, nous, on a fini avec plein de garçons dans un grand appartement à Paris. Et ça a été une partouze, faut le dire.
C'est ce qu'on appelle un très bon souvenir. Donc, pour nous rappeler le contexte en France et la question de la pénalisation de l'homosexualité, ça voulait dire quoi être homosexuel à l'époque dans la vie de tous les jours?
Dans la vie de tous les jours, c'était, vous pouviez difficilement louer un appartement parce que c'était, les beaux étaient inscrits, il y avait écrit en bon père de famille, donc ça excluait, ça permettait d'exclure les homos. C'était bien sûr aussi tout ce qui pouvait concerner la santé, parce que on était considérés comme des malades mentaux, c'est ce qui a été dit, ça a été dit dans le sujet. Il faut rappeler que dans les années 60, l'homosexualité avait été rangée en fléau social. Donc c'est aussi l'idée que, alors certes, il n'y avait pas les mêmes lois que dans certains pays comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni ou l'Allemagne, où là il y avait spécifiquement inscrit dans la loi que l'homosexualité est interdite. En France, c'est vrai que c'est pas le cas depuis la Révolution française, mais par contre, c'était, on utilisait tout là, les bonnes mœurs, l'exhibition, enfin tout pour faire en sorte que on puisse arrêter et condamner les homos.
Ça veut dire que vous aussi, il y a eu des moments où vous avez eu peur, il y a eu des moments où vous vous êtes caché, ou alors que vous étiez pour le coup parfaitement au clair avec vous-même à ce moment-là, face au monde, vous disiez.
Il fallait choisir, en fait, les gens à qui on le disait. Bon, dans mon entourage amical, bien sûr, c'était su très vite. Mais par contre, dans l'entourage familial, on n'en parlait pas. J'en parlais pas. Donc, on a deux existences. On a deux soi-même, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'on a deux... Alors, moi, je vivais à Paris, donc c'était plus facile parce que j'avais ma vie à Paris. Et donc, quand j'allais à Lyon, j'étais plus vraiment moi-même. Parce que je pouvais pas parler de mes amours. Bien sûr, je me censurais pas non plus, mais en fait, si, parce que je ne pouvais pas parler des garçons, je ne pouvais pas parler des fêtes à laquelle j'assistais ou les choses que je faisais avec des copains.
82, l'homosexualité est dépénalisée. Vous arrivez à Paris, vous commencez à bosser. C'est FR3 et puis c'est Antenne 2. Ça démarre plutôt bien. Il y a quelque chose d'assez grisant dans l'atmosphère. Mitterrand vient d'être élu. On sent un vent qui tourne quand même. Vous avez 23 ans, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça y est, vous déployez vos ailes et votre vie, vous l'embrassez pleinement à ce moment-là?
Oui, dans le milieu amical, oui. Ouais. Dans le milieu professionnel, pas encore. Parce qu'en fait, si. Alors, à FR3, Orléans, il se trouve que c'était vraiment, c'est pas la cage aux folles, mais limite, parce qu'on était assez nombreux, le réalisateur, le script, le journaliste maison, qui était vraiment Henri Masse, qui était incroyablement folle, et c'était trop drôle. Donc, ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, d'arriver sur cette rédaction. Faut voir aussi que les rédactions de FR3, après 81, elles se sont beaucoup rajeunies. Donc les directeurs d'antenne, les rédacteurs en chef étaient des gens plutôt jeunes et qui avaient envie de bouger en fait. Donc ça c'était plaisant. Ouais.
Mais il y a une ombre qui plane, il y a ce truc dans l'air, cet étrange virus venu des États-Unis dont on commence à parler sans trop savoir ce que c'est. Avec deux amis, vous faites le test comme ça pour voir et en 85 vous l'apprenez, vous êtes séropositif. À l'époque, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on sait du sida, du VIH ?
On ne sait pas grand-chose, puisque le virus a été identifié en 83. Et en 85, c'est vraiment au moment où les tests sont disponibles, hein, à l'automne 85, que je décide de faire le test. On ne sait pas grand-chose. Ce qu'on entend à la télé, ce que j'entends moi, comme n'importe qui, c'est le professeur Montagnier ou Willy Rosenbaum, les premiers qui se sont mobilisés sur cette épidémie, et qui disent qu'on a identifié le virus et qu'assez rapidement on va trouver un vaccin, qu'assez rapidement on va trouver un traitement.
Ouais.
Hein. Et on est en 85, et bon, ben, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de vaccin, et le traitement, ça ne guérit pas.
En attendant, vos proches tombent comme des mouches les uns après les autres. Vos deux amis avec qui vous aviez fait le test meurent 5 ans plus tard. Vous décidez de prendre un an de congé sabbatique, le temps d'encaisser, le temps de digérer tout ça. Vous partez à New York, vous rêvez de Broadway, mais qu'est-ce que vous allez découvrir là-bas ?
Act Up. Act Up New York, la lutte, le combat, le aussi.
Parce qu'en France, ça n'existe pas ou c'est très embryonnaire.
Alors, Act Up existe depuis l'été 89 en France, et c'est vraiment quand j'arrive à New York que je suis en congé sabbatique et je m'inscris dans le combat contre le SIDA. Un ami cinéaste me parle d'Act Up et j'arrive dans ma première réunion où là il y a des centaines de personnes et c'est un peu comme la Gay Pride, enfin la marche homosexuelle 10 ans avant. C'est un sentiment. Waouh, de me dire, je suis plus tout seul.
Ouais.
J'ai de l'information. On parle de nouveaux traitements. On parle de mobilisation. On me dit qu'on peut faire des choses, que
c'est
la
ça.
Prévention, on peut avancer, qu'il faut réclamer des nouveaux traitements. Et puis surtout, on me dit, mais le lien entre l'homophobie et le SIDA. Si le gouvernement américain s'est pas préoccupé de cette épidémie, c'est parce qu'elle touche des personnes marginalisées. Mmh. Et ça, je le perçois à New York, l'aspect politique des choses.
Ouais. Un an plus tard, 91, retour en France, on est en pleine guerre d'Irak. Alors franchement, les gays qui tombent malades, ça n'intéresse pas votre rédaction. Le décalage va se creuser entre elle et vous. Vous rejoindrez donc Act Up France. Et Act Up, par exemple, c'est ça.
Beaucoup de manifestations là, avant de venir là ?
Non, pas tellement, non, pas de visu, j'en ai vu à la télévision, oui bien sûr, mais pas de très près, c'est assez impressionnant.
Ça vous fait quel effet ?
Peut-être de nuit, c'est encore pire, je trouve. Enfin, c'est
extrait du documentaire Sida Guérilla, diffusé le 11 décembre 93 sur Canal, c'est votre mère ?
Oui.
Qu'on entend là.
Ouais.
Il n'y en avait pas beaucoup des mères hein, dans les cortèges à l'époque. Et comment est-ce qu'elle avait appris, dans quelles circonstances, votre séropositivité ?
En fait, par ma sœur. Parce que mon copain de l'époque avait gaffé en disant à ma sœur Sophie « Ah, il faut que j'aille à la poste, je peux pas te parler plus longtemps parce que Christophe a oublié son AZT, donc le médicament ouais. de l'époque, on est en 92, et je peux pas te parler maintenant, donc... et elle dit quoi, l'AZT, mais ça veut dire quoi ? Et là, en fait, il a gaffé, il lui a dit que j'étais séropo, et donc ma sœur en a parlé à ma mère, qui m'a appelé, elle m'a dit « Mais Christophe, qu'est-ce qui se passe ?» Bon. Elle savait que Laurent était mort, elle savait qu'Olivier était mort, elle était venue à New York me rendre visite. On avait fait de l'échange de seringues ensemble dans le Lower East Side pour les usagers de drogue. Donc elle savait que j'étais à Act Up, mais on n'en avait jamais parlé, on n'avait jamais
elle
prononcé
pas fait le
mot.
Lien.
Non. Et ou alors elle voulait pas m'en parler, elle ouais. avait trop peur, je sais pas, ou. Voilà, et donc c'est vrai qu'elle l'a appris et qu'en revanche, à partir de là, elle a été hyper soutenante. Je me rends compte aujourd'hui ouais. à quel point c'est quand même important et la chance que j'ai eue d'avoir un entourage, y compris familial, qui pouvait me soutenir.
Au début des années 90, la France fait face à son plus lourd bilan en termes de morts et de malades du sida. Avec l'affaire du sang contaminé, tout le monde prend conscience du caractère hautement politique de la maladie. Pour Act Up, ça veut dire une action coup de poing tous les 4 jours, c'est ça ?
Ah, c'est énorme. On n'arrêtait pas de faire des actions, des zaps. On se couchait dans des institutions. Ah oui, c'est une association activiste où le corps est mis en première ligne, si je puis dire, où les malades eux-mêmes veulent se montrer. Pas pour juste montrer, mais parce qu'il fallait alerter. Il fallait aussi donner un visage à cette épidémie.
Ouais.
C'est ça qui était le plus important. Et souvent, on voulait refuser, justement, de la même façon qu'on refusait la honte par rapport au fait d'être homo, etc. Bah là, c'est pareil. C'est on portait la séropositivité comme une identité de combat.
Vous rendrez hommage à tous ces militants dans un ouvrage sorti en 92, Les combattants du sida. Parallèlement, vous avez repris du service à France 2. Le 17 octobre 91, vous signez un documentaire pour Envoyé spécial, La guerre des seringues.
Geste banal. Échange de seringues entre Mariola, assistante sociale, et Alan, héroïnomane depuis 15 ans.
C'est ma voix, ça.
Ah oui, je vous confirme. Oui.
Geste banal à Liverpool pour tenter d'enrayer l'épidémie de sida. C'est peut-être grâce à ce type de programme social qu'Alan n'est pas séropositif.
C'est quoi l'enjeu de cette guerre des seringues, Christophe, pour qu'on comprenne ?
Alors le titre, bon, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais ce que je voulais montrer, c'est à quel point des programmes de ce qu'on appelait réduction des risques pouvaient avoir un impact immense dans la réduction de transmission et en particulier auprès des usagers de drogue. Et j'ai comparé Liverpool et Marseille parce que les taux d'infection au VIH à Liverpool étaient vraiment mais tellement bas par rapport à Marseille, qui est une ville comparable.
Et pourquoi la France était si en retard ?
Parce que les politiques se sont pas beaucoup intéressés au sujet, parce que aussi la France a refusé pendant très longtemps de mettre en place des actions de santé publique, tout simplement. Faut pas oublier que jusqu'en 87, on pouvait pas vendre des seringues aux usagers de drogue, on ne pouvait pas faire de la publicité sur le préservatif, etc., etc. Donc on a mis très longtemps à mettre en place des mesures de santé publique en France. Parce que c'était aussi finalement une société assez corsetée et une société où l'homophobie, le sexisme, le racisme étaient réalité.
La guerre contre le sida, cette fois, va connaître un nouveau tournant avec l'arrivée des trithérapies en 96. Ça va changer quoi pour vous ?
Ah bah tout. Tout, parce que c'est vraiment une révolution. Faut imaginer qu'à l'époque, on était très mal. Moi, je devais avoir 3 T4 ou 4, je sais plus. C'est-à-dire les cellules immunitaires. Hein, et que ces trithérapies, donc ces nouveaux médicaments, cette nouvelle classe de molécules, elle nous a permis de vivre, tout simplement.
C'est au-delà des montagnes russes. Quand vous faites le test, vous comprenez que vous êtes séropositif ou du bon. Comme vous savez rien sur la maladie, bon, ça va aller. Puis après, vous dites, ah ben non, en fait, je vais mourir. Et je vais pas mourir.
C'est ça. Et donc, faut tout refaire, faut tout repartir, pas à zéro, mais
tout repenser,
faut reprendre. C'est vertigineux, et c'est vertigineux sur tous les plans, personnel, sexuel, professionnel, amical, des gens qu'on avait envoyé chier parce que ils voulaient pas s'occuper avec nous du sida, on se dit mais oui, c'est quand même des amis de longue date. Bon, il n'y en a plus beaucoup, beaucoup étaient morts, mais donc il faut tout repenser en fait. Et l'échéance à court terme de la mort, parce que c'était le cas, moi souvent je sais qu'à Act Up on travaillait sur des sujets, moi, et puis on parlait de dans 6 mois va y avoir la Gay Pride, et moi je disais mais dans 6 mois je serais mort, mais parce que c'est ce qui se passait, toutes les semaines à Act Up, on annonçait la mort de quelqu'un. Et on envoyait une carte postale à Mitterrand, qui n'a rien fait pendant toutes ces deux septennats, qui n'a jamais prononcé le mot sida. Donc c'est vrai que cette arrivée des trithérapies, alors on a eu la chance en plus en France de justement se battre pour accélérer le mouvement, parce qu'au début c'était il y avait une forme de loterie, hein, on avait décidé que 100 malades pourraient l'avoir en avril, puis 100 malades en mai, etc. Donc en fait énormément de gens seraient morts sans ça, et du coup on a fait pression à la fois sur les labos et le gouvernement pour que effectivement une enveloppe financière soit débloquée, et tout d'un coup il n'y a plus de problème d'approvisionnement, les labos pouvaient fournir, et c'est vrai que ça a sauvé la vie de beaucoup de gens. Alors que dans d'autres pays d'Europe, ce n'est pas le cas. En Portugal, les gens continuent à mourir en masse parce qu'ils n'avaient pas accès aux trithérapies. Et sans parler de l'Afrique, pardon, et effectivement des dizaines de millions de personnes qui sont mortes avant d'avoir accès au traitement.
Autre virage professionnel cette fois, vous quittez la télé pour la presse écrite, vous serez rédacteur en chef adjoint de Tétu, puis fondateur de YAG, premier pure player LGBT en 2008, que vous quitterez en 2016, et puis ce sera Committed en 2018. Ça veut dire que ce qui a changé aussi, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire son métier, ce métier de journaliste, en conformité avec ses engagements.
Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui l'ont compris, et je pense à ma collègue Alice Coffin, enfin, qui maintenant n'est plus journaliste, qui est toujours journaliste, mais qui est plutôt dans la politique, qui le dit très bien, c'est qu'aucun journaliste n'est complètement neutre. On parle toujours d'un certain point de vue, et le fait d'être un journaliste ou une journaliste engagée n'obère pas du tout. Enfin, comment dire, on peut toujours traiter des sujets avec objectivité, sans doute pas, mais en tout honnêteté. Cas avec engagement et honnêteté, exactement. Et avec déontologie aussi, parce qu'il y a une déontologie journalistique.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a un petit peu éludé, Christophe.
Ah, oula.
Une étape qu'on a sautée, un fil qu'on n'a pas encore tiré. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause baby, bon, on danse, Christophe, mais c'est quoi cette chanson, s'il vous plaît?
C'est la chanson de mon mariage.
Marvin Gaye et Tammy Terrell, pour votre mariage avec Solomon en 2013. Vous étiez le premier couple gay à vous marier dans le 20e arrondissement de Paris. Racontez-nous, avant la fête, on va faire un petit moonwalk arrière. Là, vous êtes rencontrés quand, comment, dans quelles circonstances? Dites-nous.
Solo, on s'est rencontrés en 2000 à Durban. C'était la première fois qu'une conférence mondiale sur le sida avait lieu dans un pays du Sud. Mmh. Et j'avais décidé de faire un reportage pour Têtu en allant sur les stands des associations du Sud pour rencontrer des activistes. A priori, des activistes gays ou en tout cas, des garçons pas trop moches. Parce que, faut le dire. Parce que c'est Têtu, parce que j'avais un photographe, parce que, c'est horrible à dire comme ça, mais voilà. Et je suis approché du stand de Tasso, qui est de l'association ougandaise, et j'ai dit à ce garçon, je suis Christophe, je travaille pour un magazine gay. Et là, j'ai vu un grand sourire, il m'a dit, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Et après, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'évidemment, lui-même allait me dire qu'il était gay, et c'est comme ça que ça a commencé. Non, mais vraiment, il y a 25 ans.
Incroyable.
C'est une histoire incroyable.
Incroyable. Et aujourd'hui, du colporteur tous les matins, quoi.
Presque.
Est-ce que c'est avec lui que vous allez déployer votre engagement sur le terrain de l'immigration et du droit d'asile, avec l'ARDIS notamment, mais pas que?
En tout cas, je crois que c'est toujours... on dit souvent qu'à partir du moment où on a obtenu un certain nombre de droits, il ne faut pas se dire ça y est, c'est réglé. Mmh. Et il faut toujours penser à ceux qui sont derrière. Il ne faut pas fermer la porte, comme on dit. Il faut toujours la laisser ouverte et faire en sorte que si on s'est battu pour nos droits, il faut qu'on continue à se battre pour ceux des autres. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation des personnes LGBT qui viennent parce qu'elles doivent fuir leur pays... en raison de leur orientation sexuelle, d'identité de genre,
où elle risque la prison à vie, la peine de mort.
Et donc, c'est vrai que ça m'a aussi mobilisé. Hein, et notamment avec Solo, pendant plusieurs années, pas mal d'Ougandais venaient, parce que l'Ouganda avait vraiment une politique de plus en plus dure vis-à-vis des personnes LGBT. Alors, il faut quand même rappeler que c'est aussi un héritage colonial, l'homophobie. Hein. C'est parce que la Grande-Bretagne avait colonisé l'Ouganda qu'elle avait introduit dans le code pénal des lois homophobes. Mais en tout cas, on a fait en sorte d'aider des personnes qui venaient en France demander l'asile. Hein.
Et donc le ciment du couple, c'est ça.
Aussi.
En marge. Sur France Inter.
Christophe Martet, vous êtes donc président depuis 2 ans de l'association Vers Paris et la Seine-Saint-Denis sans sida, parce que c'est possible de l'éradiquer totalement.
On peut mettre fin à l'épidémie, on a aujourd'hui tous les outils pour. Il faudrait en revanche qu'on puisse vraiment s'assurer que des mesures non discriminantes soient mises en place pour les populations, ce qu'on appelle les populations clés. Oui, on a la PrEP, le traitement préventif, on a le dépistage qui permet de connaître son statut, et on sait aujourd'hui qu'une personne séropositive qui connaît son statut, non seulement va pouvoir bénéficier d'un traitement qui va la maintenir en vie et en bonne santé, mais aussi elle ne va plus transmettre le virus. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à éteindre l'épidémie. Mais bien sûr, tout ça s'accompagne. Alors c'est des outils de prévention, c'est l'accès donc au traitement. Mais bien sûr, ça s'accompagne d'une lutte acharnée contre les discriminations qui alimentent l'épidémie. Et on peut pas pointer du doigt des populations entières, comme les étrangers, comme les personnes trans, comme les travailleurs et travailleuses du sexe,
sans leur donner accès.
Parce que ça va les éloigner, exactement. Ça va les éloigner du soin, ça va les éloigner de la prévention. Il faut le respect, la dignité pour toutes et tous.
Ça fait partie de vos outils de lutte, Monsieur le Président, ce que vous nous
la
avez amené là.
La grève du sexe, j'adore ce roman photo. Donc c'est un roman photo par et pour des personnes afrodescendantes, puisque c'est une des populations clés, donc les plus touchées par le VIH aujourd'hui en France, les personnes nées à l'étranger. Et donc, avec le principe du roman photo, là, la grève du sexe, c'est pour expliquer que dans un couple, faut faire le test régulièrement. Et la fille dit à son copain, si tu veux pas faire le test, moi je fais la grève du sexe. Ouais. Donc c'est une façon à la fois très, très cash et en même temps... avec des personnes encore une fois concernées et à chaque fois, parce qu'on est une association qui permet d'avoir des infos, des ressources sur les territoires de Paris et Seine-Saint-Denis.
Vous n'êtes pas censé être à la retraite, Christophe ?
Je suis à la retraite de mon métier de journaliste, mais je continue quand même à faire des choses parce qu'il faut continuer à militer. En tout cas, moi, c'est vrai que je n'étais pas forcément parti pour ça, mais je me rends compte que toute ma vie, je me suis consacré à ce combat, mais parce que aussi les autres vous portent, en fait. Mmh. Moi, je rentre dans les associations parfois en me disant, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir rencontrer des gens et on réussit jamais rien tout seul et c'est avec les autres qu'on arrive à faire des choses.
Good times and bum times. I've seen them all in my dear. I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer. But I'm here. Up the dailies in my shoes, strummed ukuleles, sung the blues, seen all my dreams disappear, but I'm here.
I'm still here. La voici, la chanson que vous pourriez entendre pour l'éternité à jamais, pour le reste de vos années de combat, c'est-à-dire toutes. Pourquoi celle-là ?
I'm still here parce que déjà je suis toujours là. peut-être que effectivement il y a 30 ans j'aurais pas dit la même chose, mais parce que c'est une chanson écrite paroles et musique par Stephen Sondheim qui est quand même le maître absolu de la comédie musicale américaine, et parce que c'est quelqu'un qui raconte comme ça sa vie et il y a tous ces aspects complètement fou de la vie de cette actrice, mais aussi parce que c'est une survivante en fait, elle a traversé des tas d'épreuves et elle est toujours là en fait. Et c'est ça, je peux pas dire que c'est, mais oui si, ça me ressemble en tout cas.
Il y a quelque chose, oui. Quand
oui
même.
Voilà, sur le fait de survivre aussi.
Et sur cette route là, vous emporteriez quoi avec vous ?
Alors j'ai apporté une photo, parce que comme je le disais, on n'y arrive jamais tout seul. Et en fait, pour mes 50 ans, donc je décris la photo, c'est Betty Davis, Marilyn Monroe et George Sanders dans All About Eve, un de mes films vraiment préférés, culte. Et je vous assure, regardez-le, plutôt en version originale, parce que chaque phrase permet de justement survivre et chaque phrase est peut-être une réplique. La plus connue étant « Fasten your seatbelt, it's going to be a bumpy night », donc attachez vos ceintures parce que la nuit va être mouvementée. Ça, vous pouvez le sortir dans plein de situations. Et en fait, c'était lors de mes 50 ans et un ami, Grégory, avait fait des collages et donc on me voit au milieu de ce groupe d'acteurs parce qu'il avait consacré, il avait fait le thème de la soirée de mes 50 ans, c'était All About Christophe, et on était 50, on n'a pas fait exprès, mais on était 50, et surtout, ce qui est magnifique, c'est que mon mari, le matin, m'a dit « Life begins at 50 ».
La vie commence à 50 ans, en marge, c'est terminé pour ce soir, merci.
Déjà ?
Infiniment, Christophe, d'être venu partager votre histoire.
Mais c'est moi qui te remercie, qui vous remercie, parce que vraiment, c'est incroyable, la façon dont tu peux, comme ça, nous permettre de parler et de revenir sur des choses, et c'est magnifique, vraiment, merci.
Merci infiniment. Je signale juste que vous êtes en train de fabriquer une série de podcasts sur tout ce dont on vient de se parler, les années
de
combat.
L'histoire d'ACT UP, absolument, avec la voix des militants et des militantes. Une trentaine de militants et militantes qu'on a interviewé avec Raphaël. Et j'espère pouvoir trouver un peu de sous pour le terminer.
Raphaël.
Grim Marquis.
Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.